Je dois dire que je suis assez émue de parler ici de communauté, parce que c'est le cœur du sujet et de la façon d'être. Ici, nous formons une communauté, de toute évidence, mais c'est une communauté presque trop heureuse ou trop amicale pour qu'elle nous serve de sagesse. Notre réunion est une arche plutôt qu'un effort. Il y a entre nous tous, dans nos pratiques, dans nos partages, trop d'amitié, trop de commun pour que nous soyons effectivement placés devant la tâche que recèle ordinairement le vivre ensemble. Car l'exigence de communauté suppose peut-être avant tout cela, vivre ensemble dans et pour la dissonance, s'appuyer sur le désaccord, sur les altérités, vivre avec et même faire avec. Et c'est justement ce dont a parlé Barthes dans ce cours que vient de rappeler Dominique, un de ses derniers cours au Collège de France dont on vous a déjà parlé ici l'an dernier et qui s'intitule précisément « Comment vivre ensemble ». Barthes médite dans ce cours sur... Il faut mesurer aussi le caractère exorbitant de cette prise de parole de Barthes au Collège de France. Il arrive comme professeur, enseignant de littérature, et il propose un premier cours intitulé « Comment vivre ensemble » et qui s'ouvre sur la description de son fantasme d'une vie à plusieurs. On a perdu l'habitude, enfin pour moi, pour ma génération, on a perdu l'habitude de tant d'audace dans l'enseignement. Comment vivre ensemble, donc c'est le titre de ce cours de Barthes, qui commence par une méditation sur son fantasme d'une vie à plusieurs et sur le régime de communauté qui constituerait pour lui un horizon désirable. À vrai dire, Barthes se protège d'une réflexion réelle sur la communauté dans ses implications, notamment politiques. Il se protège, il peine à esquisser des sorties au-delà de la solitude. Il se pose des problèmes de petits regroupements, d'amitié à quelques-uns. Mais je crois qu'il se pose les bonnes questions et qu'il nous pose les bonnes questions car il lui apparaît que la vie heureuse se joue, en tout cas pour lui, autour d'un enjambement régulier, l'enjambement des cloisons du moi dans une protection et une déprotection, ce qu'il appelle une déprotection, c'est un mot très fort, un mouvement donc de respiration autour de sa propre solitude qui est sans cesse rejouée. Et vivre ensemble, selon le désir de Barthes, ne correspond ni à un modèle duel, le couple ou la famille, ni à un régime véritablement pluriel et qui serait véritablement politique, le collectif, le groupe en tant que tel. Non, pour lui, vivre ensemble engage une autre forme de côtoiement et de relation, ce qu'il appelle une mise en commun des solitudes. Une mise en commun des solitudes, et c'est la singularité de sa réflexion. Un modèle de vie donc où les solitudes seraient régulièrement interrompues pour se retrouver, mais tout aussi régulièrement reconstituées et protégées. Barthes a donc trouvé le modèle de ce vivre ensemble dans les communautés monastiques des premiers temps. Il n'a pas un savoir profond sur sur ces éléments d'histoire religieuse, mais il y projette tout son désir. Les communautés monastiques des premiers temps, donc des communautés de petite dimension. Et il précise au début de son cours que les petits groupes n'ont intéressé ni la psychanalyse ni la philosophie politique, mais que c'est justement sur eux qu'il a voulu se pencher. Et il accentue dans ce cours une question inattendue, donc a rappelé déjà Dominique, celle des rythmes de la vie. Pour lui, la question de la communauté sera posée en tant que telle par le problème du rythme. Vivre ensemble, pour Barthes, c'est accorder indéfiniment des rythmes, et c'est un travail, non pas se régler unanimement et une bonne fois pour toutes sur un même tempo, comme si nous étions des métronomes qui avaient à se décider une fois pour toutes, mais au contraire faire converger régulièrement des allures qui demeurent différentes et qui demeurent mobiles, protéger à la fois les chances de socialité et les chances d'individuation, et même, le mot revient sans cesse, de solitude. C'est dans un livre d'histoire et d'anthropologie religieuse, L'été grec, de Jacques Lacarrière, que Barthes a découvert la description de ces petites configurations sociales et religieuses qui répondaient à son désir. Donc il se penche sur cet exemple des couvents du Mont Athos, où les moines se trouvaient à la fois isolés et régulièrement reliés, régulièrement mais rarement à vrai dire, la plupart du temps seuls, rassemblés de temps en temps pour l'office de nuit ou pour certaines fêtes. Je laisse sonner, ça va être la scansion principale de mon propos. Et puis dans un autre cours que vous aurez peut-être plaisir à lire aussi, qui s'appelle La préparation du roman, Barthes s'imagine préparant un roman, il écrit un cours sur la poésie en fait, sur le haïku. Et au sujet du haïku, Barthes parle de la puissance qu'a le rythme, en poésie cette fois, d'intégrer les corps à un milieu. Faites-moi des grands signes si vous ne m'entendez plus. Donc la puissance qu'a le rythme d'intégrer les corps à un milieu, de faire cesser la séparation des corps. Il n'y a pas de rythme en soi, dit-il, le rythme est toujours civilisé. Hein, et il le dit même à propos d'un poème. Le rythme poétique est civilisé, civilisant même. Un rythme civilisé, c'est-à-dire relationnel, voilà l'idéal que Barthes cherche à travers ses lectures. Une solitude régulièrement interrompue, ce qu'il appelle une structure collective individualiste ou, avec une formule là encore exorbitante, un socialisme des distances. Dans ce livre, L'été grec, Barthes a donc trouvé l'image de son rêve et il a trouvé aussi le terme susceptible de le nommer. Et là, vous voyez que Dominique a avancé pas à pas dans mon propos, l'idiorythmie. L'idiorythmie, donc de rythmos, le rythme, la manière de couler, la manière de fluer, et idios, propre, particulier. L'idiorythmie, donc, c'est le maintien d'un rythme individuel dans une composition avec le rythme des autres. Et l'idiorythmie, précise Barthes, c'est un mot qui devrait apparaître comme un pléonasme, puisque le rythme est par définition individuel, il désigne la manière dont un individu singulier s'insère dans le code social. Mais rythme a pris dans notre culture un sens répressif, réglementaire, surtout lorsqu'il touche au genre de vie partagée, les rythmes scolaires. C'était un des grands sujets de réflexion de cette année pour le ministère concerné. Les rythmes scolaires, les rythmes urbains, la vie au couvent ou au phalanstère, ce sont des rythmes réglés au quart d'heure près. Donc rythme a fini par désigner cet enrégimentement des manières de se tenir dans le temps. Et il a donc fallu lui adjoindre ce préfixe, idios, propre, particulier, pour ancrer à nouveau la question du rythme du côté de la singularité, du côté de l'individuation. Mais ce qui est intéressant avec ces connotations contraires, en fait, parfaitement contradictoires, assumées par le mot rythme au cours de son histoire, c'est qu'il semble nommer le passage permanent de l'individu à son dehors, de l'individu avec ce avec quoi il doit composer. Et Barthes, en fait, part d'une évidence de déphasage, d'une évidence de dysrythmie, de désaccord, de règlement au quart d'heure près, justement. Il part pour réfléchir sur ce que c'est que maintenir son propre rythme dans une communauté. Il part d'un exemple de conflit des allures et il ouvre son cours sur une petite scène, enfin qu'on rappelle souvent, une petite scène familiale, c'est important, ordinaire, qu'il a observée, il dit qu'il l'a observée, on peut le croire, depuis sa fenêtre de la rue Servandoni, à côté de la place Saint-Sulpice, la fenêtre depuis laquelle il avait raconté qu'un jour il avait lancé sa côte, il avait été opéré, jeune homme, d'un pneumothorax, et il raconte qu'un jour il s'est débarrassé de ce souvenir en lançant le bout d'os qui lui restait. Donc depuis cette fenêtre de la rue Servandoni, Barthes observe cette scène. Une mère fait avancer devant elle une poussette vide en tenant son enfant par la main, mais elle va d'un pas à la fois trop rapide et trop régulier. Elle oblige l'enfant à courir, elle le contraint à son rythme à elle. Elle va à son rythme, dit Barthes, sans savoir, c'est-à-dire sans même envisager, que le rythme du gosse est autre. Et pourtant c'est sa mère, dit-il. Et c'est ainsi pour Barthes que s'impose le pouvoir, en un rythme forcé qui exclut la nuance des pulsations individuelles et le réglage des différences. Barthes conclut, la subtilité du pouvoir, dit-il, passe par la dysrythmie, l'hétérorythmie. Et dans un autre texte publié, mais forcément de façon posthume, qui s'intitule Le journal de deuil, qui est le journal que Barthes a tenu après la mort de sa mère, il a cette petite notation un jour, chacun son rythme de chagrin, chacun son rythme de chagrin. Parce que c'est un moment dans sa vie personnelle, où quelques mois simplement après la mort de sa mère, qui a été l'événement bouleversant de sa vie d'adulte, Barthes commence à recevoir à nouveau des requêtes. Hein. « Viendriez-vous assurer ce cours, etc. Pourrais-je venir vous montrer mes pages de thèse Voulez-vous venir dîner chez nous ?» Et Barthes s'étonne en fait de la demande sociale qui pèse si rapidement sur un homme endeuillé, comme si au bout d'un temps fixe, qui était le même pour tout le monde, on n'avait plus le droit de se dérober aux scansions normées, aux scansions ordinaires de la vie publique. Chacun son rythme de chagrin, donc, dit-il. Barthes cherchait ainsi à nous rendre attentifs aux contraintes rythmiques qui pèsent sur nos manières d'être, sur nos formes de vie. Mais il cherchait aussi à nous rendre attentifs aux gestes qui peuvent défier et parfois défaire ces contraintes, c'est-à-dire à la sorte de respiration idiorhythmique qu'à ses yeux la société devrait étayer, à la fois en protégeant la solitude de l'individu et en favorisant les moments de son ouverture, de ce que je vais appeler tout au long de ce petit exposé, son pli au dehors, la façon dont l'individu sait plier au dehors de lui-même. Respiration parce qu'il ne s'agit donc pas seulement de maintenir son tempo isolément, de façon rigide, mais de réguler des sorties. Barthes pose d'ailleurs la valeur d'une identité individuelle qui ne serait ni homogène ni divisée, mais, comme il le dit, composée, autrement dit, rythmique. Alors je crois qu'il ne faut pas s'exagérer la portée politique de la réflexion de Barthes sur le vivre ensemble, parce qu'elle part avant tout de l'individu, et elle s'interroge sur l'insertion de l'individu dans un espace de vie. La question de Barthes, c'est plutôt, il appelle ça vivre ensemble, mais sa question c'est celle du vivre avec quelques-uns, et vivre avec quelques-uns de temps en temps. Il ne met pas en valeur le groupe, mais la façon dont l'individu protège sa solitude tout en s'élançant régulièrement hors de soi. Et à vrai dire, la résistance de Barthes à penser le groupe est très grande. Son idéal idiorhythmique pousse en fait comme une plante sur le terreau de l'anachorèse et de la retraite. Ce sont les exemples qu'il traite sans cesse dans son cours. Je cite par exemple cet idéal, là encore projeté à l'infinitif comme un modèle de vie idéale. S'isoler, ne garder que quelques points de contact avec le monde. Vivre ensemble. Voilà la conclusion. Alors Barthes disait qu'il n'était pas un bon sujet politique. Ce fantasme d'idiorhythmie était, si l'on veut, tout le politique dont il était capable. Une communauté du un à un, du un par un, de l'individu s'aventurant à l'extérieur de lui-même mais revenant à sa singularité sans cesse, inventant sa distance avec le dehors. Il s'intéresse en fait à ce qu'il appelle les formes subtiles du genre de vie, qui protège les manières d'être individuelles, les humeurs, les configurations non stables, tout le contraire des cadences cassantes. Voilà donc une sorte de programme social pour Barthes. Et je le dis sans ironie parce que je pense qu'il nomme des questions vraiment importantes. Protéger collectivement les manières d'être individuelles. Protéger collectivement les manières d'être individuelles. C'est tout le politique dont Barthes était capable, donc, mais c'est déjà beaucoup. Parce que sa réflexion répond à la demande de communauté par des valeurs inédites. Au premier chef, l'individuation. L'intéressant pour nous est en effet que Barthes tourne le regard vers des modèles qui doivent favoriser l'individuation, l'individuation de l'habitat, de l'espace, de la nourriture. Et dans l'idiorhythmie, il est avant tout séduit par ce qu'il appelle la labilité des formes de vie, l'inventivité, la créativité des formes de vie. Idiorhythmie, voilà donc la réponse deux fois singulière que Barthes apporte à la question du vivre ensemble, singulière par son refus explicite de considérer le collectif comme la bonne question pour comprendre la constitution d'une communauté désirable ou heureuse pour lui, et singulière ensuite par son intérêt presque exclusif pour les rythmes, les régimes de vie, les formes du quotidien. Dans cette perspective, le rythme n'est pas seulement un aspect ou une dimension de la vie, il en devient le principe. Le rythme ne s'ajoute pas à une vie qui aurait au repos une identité à elle. Je suis tel et voilà le rythme selon lequel je suis. Non, ici, l'individu n'est pas seulement rythmé, c'est-à-dire affublé comme revêtant un costume d'une valeur temporelle marquée par une vitesse qui viendrait s'ajouter à ce qu'il est déjà. Il n'est pas rythmé, il est rythmique, c'est-à-dire qu'il est forgé dans ses contours, dans sa singularité, par l'engagement d'une allure. On rejoint ici, en fait, dans le cours de Barthes, il est cité sporadiquement, mais de façon toujours légère, comme chez Barthes, l'intuition de Nietzsche d'une vaste rythmique de l'existence, une rythmique qui façonnerait les sentiments, les expériences, et avant tout, évidemment, les gestes, la marche, pour Nietzsche au premier chef, un Nietzsche promeneur, chez qui la marche et les gestes tendaient volontiers vers la danse. C'est de Nietzsche d'ailleurs que Barthes hérite la question pragmatique des modes de vie, des régimes de vie, de ce qu'on a appelé les diètes, en fait, dans un sens large. Une des grandes dettes que la modernité a à l'égard de Nietzsche réside d'ailleurs sans doute dans ce qu'on a appelé sa diétologie généralisée, l'attention du dernier Nietzsche à la vie comme style, aux formes que l'on donne à son existence, jusque dans l'air qu'on respire, la nourriture, le climat que l'on se choisit, les paysages dont on s'entoure, dont on choisit de s'entourer. Rythmique est le paysage qui se déploie autour de Nice, et où Nietzsche a eu le sentiment de se rejoindre lui-même à la fin de sa vie. Rythmique est l'alternance de fièvre et de grande santé, hein, qui l'a tenu comme le terreau même de son savoir. Rythmique les journées de promenade et d'écriture. Rythmique la diète, hein, à laquelle il est si attentif dans les dernières années de sa vie. Rythmique enfin la communauté, qui peut désormais être redéfinie comme un montage de rythme, une configuration de discordance et de concordance, et comme l'a appelé un théoricien du politique récent, un rythme de rythme. En fait, plusieurs philosophes, plusieurs anthropologues ont visé eux aussi, un peu avant Barthes, un peu après lui, sans communication avec la réflexion de Barthes, puisque la réflexion de Barthes est littéraire, et donc en communication difficile avec les sciences sociales. Mais plusieurs philosophes ou anthropologues avaient déjà visé cet horizon d'une anthropologie du rythme, d'une rythmique de l'existence. Et ils partageaient notamment un même intérêt pour la continuité que la question du rythme permet de maintenir entre le corps et le social, entre le corps et le langage. Je parlerai rapidement de quelqu'un que vous connaissez évidemment, qui est Marcel Mauss. Dans les notes de cours publiées par ses élèves en 1947 sous le titre de « Manuel d'ethnographie », on lit par exemple cette phrase synthétique, programmatique, une espèce d'oracle de Mauss. « Socialement et individuellement, l'homme, dit-il, est un animal rythmique. Hein, ni un animal de raison, ni un animal de parole, ni un animal politique, un animal rythmique. » Et Mauss visait, dans tout son travail de sociologue, la compréhension de ce qu'il appelait l'homme total. Et dans cette totalisation, c'est le rythme qui pouvait faire synthèse. Dans son texte probablement le plus célèbre, qui s'intitule « Les techniques du corps », Mauss s'intéressait par exemple à la contrainte rythmique. Comme Barthes, il partait pour une réflexion sur le rythmie. Il partait d'un problème de dysrythmie. Il s'intéressait à la contrainte rythmique qui s'exerce sur les corps lorsque l'on tente de substituer trop rapidement une habitude à une autre. Et il donne un bel exemple d'hétérorythmie avec le souvenir de la marche des soldats anglais confrontés au clairon français. C'est un texte très émouvant, les techniques du corps, parce que Mauss, qui avait été soldat, qui avait été blessé, pioche sans cesse dans ses souvenirs d'enfant, mais aussi dans ses souvenirs de guerre ou dans ses souvenirs de malade, pour parler du corps comme ensemble de capacités, hein, qui va engager des techniques, des gestes, des façons de bien savoir se servir de son corps. Et c'est un texte où le savant sans cesse mobilise son expérience et, disons, s'avance lui-même comme corps capable ou corps incapable. Donc ici encore un exemple qui lui vient de la guerre. Une anecdote, dit-il, à propos de la marche. Vous savez tous que l'infanterie britannique... Enfin, vous savez tous... Bon, nous, on ne sait plus. Vous savez tous que l'infanterie britannique marche à un pas différent d'une autre, différente fréquence, d'une autre longueur. Or, le régime de Worcester, ayant fait des prouesses considérables pendant la bataille de l'Aisne, à côté de l'infanterie française, demande à l'autorisation royale d'avoir des sonneries et batteries françaises, une clique de clairons et de tambours français. Le résultat fut peu encourageant. Pendant près de 6 mois, dans les rues de Bailleul, longtemps après la bataille de l'Aisne, je vis souvent le spectacle suivant. Le régiment avait conservé sa marche anglaise et il la rythmait à la française. Il avait même en tête de sa clique un petit adjudant de chasseurs à pied français qui savait faire tourner le clairon et qui sonnait les marches mieux que ses hommes. Le malheureux régiment de grands anglais ne pouvait pas défiler, tout était discordant de sa marche. Quand il essayait de marcher au pas, c'était la musique qui ne marquait plus le pas. Mauss donc part comme Barthes d'une scène de discordance et c'est l'exemple qui le conduit à concevoir la rythmicité de toute culture, jusqu'aux cultures corporelles, nos façons de marcher, de tout groupement d'individus. Et dès les années 1900, Mauss avait posé en fait l'importance du rythme dans la genèse du social, dans la façon dont les communautés, dont les sociétés se forment. Ses premiers articles mettaient en lumière l'alternance d'effervescence et de relâchement, de temps fort et de temps faible, si l'on veut, qui caractérise l'activité d'une collectivité au cours du temps, dans l'organisation saisonnière du travail, par exemple, ou dans la prise de cohésion, il y a une espèce de pensée dynamique, dans la prise de cohésion particulière d'une société au moment des fêtes. Je parle de jeunesse du social parce qu'ici, ce qu'engage la question du rythme, c'est une succession de liens forts et de liens faibles. Les temps forts sont des temps de socialité forte, les temps faibles sont des temps de socialité faible. Une suite donc d'intensification et de désintensification du social, un petit peu à la manière de Barthes dans cette respiration, entre les moments de solitude et les moments de pli au dehors de soi. Le roi Gourand, beaucoup plus explicitement encore, a envisagé dans les années 60 une véritable anthropologie du rythme nommée comme telle. L'idée de rythme constituait le fondement de sa pensée du vivant, de sa compréhension de la forme même des pratiques humaines. Le voilà. La pensée de Leroy Gourand peut elle aussi soutenir les intuitions de Barthes parce qu'il parle du rythme en termes, je cite, d'insertion de l'individu dans l'existence. Le rythme, c'est la création par un individu d'une régularité d'insertion dans un milieu, insertion d'un corps dans un milieu qui est un mouvement d'expansion mais qui suppose aussi des équilibres et des sécurités. Il parle vraiment de l'anthropogénèse, enfin de la formation humaine sur le mode de la façon dont les enfants apprennent à aller au dehors, hein, il y faut un équilibre de sécurité et de désir de risque, à la manière de Barthes. C'est en ce sens dynamique, peut-être, où l'entrée dans un espace est aussi un acte de refaçonnement de cet espace, qu'on peut comprendre la pensée conjointe du geste et de la parole chez Leroy Gourand. Hein. Vous savez que c'est le titre d'un de ses ouvrages majeurs, « Le geste et la parole ». Gestes et paroles par lesquels nous excédons notre propre corps, et plions effectivement au dehors, accomplissons des sorties pour entrer dans un plus large espace, par lesquels aussi nous reconfigurons par là même cet espace, ce milieu partagé. Le geste, la parole sont des façons pour l'individu de courber vers l'extérieur de soi, des façons de risquer des figures, d'exposer des images qui lui donnent forme à lui, à cet individu, mais qui donnent forme aussi à cet espace. Et le roi Gourand résumait ainsi le rythme comme la forme dynamique de l'insertion de l'homme dans l'existence. C'était son mot-clé, en fait. La ponctuation des milieux de vie et des façons de s'y regrouper. Voilà donc comment on peut ancrer dans le terreau du rythme la dynamique de la socialité et concevoir le commun, c'est peut-être ça qui est intéressant avec l'idée musicale du rythme, concevoir le commun comme processus et événement. Le commun comme non pas quelque chose qui est donné ou quelque chose même qui serait à faire, mais comme quelque chose qui arrive au sujet et qui arrive par les sujets, précisément par la façon dont ces sujets essaient des sorties. Et le rythme désigne cette respiration, cette façon permanente d'aller au dehors et de revenir à soi, en créant des configurations mobiles, passagères. Il est, pour tous ces penseurs, ce par quoi les individus co-construisent des mondes, étendent leur corps à la dimension d'un espace partagé par l'élancement, par le contact, mais aussi par le retrait ou par le repli. Ici, les sujets n'occupent pas des places fixées, ne sont pas des points dans l'espace. Ils sont, par leurs gestes et par leurs paroles, des trajets au dehors et vers autrui, dans une suite de rapprochements et d'éloignements, de jonctions et de défenses. Et ce sont ces trajets qui maillent un vivre ensemble. Dans aucune de ces pensées du rythme, en fait, il ne s'agit d'avoir un rythme en commun, mais il s'agit toujours d'inventer des points de concordance et de ménager des points de discordance. Le commun ne repose pas ici sur une propriété partagée, sur quelque chose que les membres d'un groupe posséderaient tous en propre, mais sur un mouvement vers, dans la façon dont chaque individu s'exproprie, en quelque sorte, se déplace vers autrui, plie au dehors, puis replie au dedans. J'en viens bientôt à la poésie, mais je reste un tout petit peu sur ces questions de théorie rythmique, parce qu'en fait, dans l'histoire de Verdier, dans le nouage entre anthropologie et littérature, cette question du rythme est associée à un nom propre bien particulier, qui est celui de Benveniste, qui est très présent dans le cours de Barthes, qui est très présent aussi dans la réflexion d'Henri Méchonique, qui avait, lui, projeté véritablement une anthropologie du rythme, même si elle est essentiellement présentée à l'état de programme. Dans tous ces cas, le rythme n'est pas une affaire de vitesse, mais plus largement une figure. Et c'est ce que proposait l'article fondateur de Benveniste sur la notion de rythme. C'est un texte essentiel pour un élargissement de la question du rythme à des perspectives existentielles, politiques. Dans ce texte, donc, qui date, je crois, du milieu des années 60, Benveniste revient sur l'étymologie du mot rythme. Alors, on pense tous intuitivement que le rythme est une notion fondée sur une analogie avec les rythmes naturels, avec le retour régulier des flots, par exemple, ou des saisons. Benveniste écarte cette hypothèse-là et il pose que le mot, à l'origine, désignait, à vrai dire, tout autre chose, plutôt une configuration spatiale, un schéma, un rythme au sens physique ou au sens spatial, la façon dont les colonnes d'un temple rythment l'espace, par exemple. Un schéma, une figure, l'invention d'une forme distinctive. Plus précisément, parce qu'il y a d'autres mots pour désigner la forme ou la figure, il y a le mot eidos. Plus précisément, rythmos désignait la forme dans l'instant qu'elle est assumée par ce qui est mouvant, fluide, la forme de ce qui n'a pas de consistance organique, autrement dit, je cite Benveniste, la forme improvisée, momentanée, modifiable. Donc le rythme, c'est la forme improvisée, momentanée, modifiable. C'est, autrement dit, une manière particulière de fluer, une configuration sans fixité ni nécessité naturelle, résultant d'un arrangement toujours sujet à changer, résultant d'une tâche, j'ajouterai. Et Barthes glose d'une formule très, très simple et très belle, une forme passagère, mais une forme tout de même. Je pense que c'est ainsi qu'il rêvait sa vie, une forme passagère, mais une forme tout de même, ni informe, ni réglée. Rythme, donc, ce serait le nom de toutes les prises de forme dans la vie quotidienne. Mais, et là je continue à gloser simplement l'article de Benveniste, sous l'impulsion de Platon, dit-il, qui a le mauvais rôle dans beaucoup de scénarios philosophiques, sous l'impulsion de Platon, le terme s'est chargé d'autres valeurs pour se fixer dans le sens métronomique, quantitatif, mesuré, que nous lui connaissons, les valeurs de la répétition, du bref et du long, du rapide et du lent, du nombre, en fait. Et aujourd'hui, on fait volontiers référence à cet article de Benveniste pour chercher à arracher la question du rythme à celle de la mesure, de la répétition, du comptage, et pour tourner, en fait, la question du rythme vers une compréhension des modes de subjectivation dans le temps. Pour faire du rythme un des mots-clés d'une compréhension des modes de subjectivation dans le temps. Barthes s'est appuyé précisément sur cet article de Benveniste dans son cours. Michel Deguy en a rappelé les principes. De même, évidemment, que Méchonic pour projeter son anthropologie du rythme, et, disons, tous les penseurs qui réfléchissent aujourd'hui à sa suite. Plusieurs théoriciens du politique héritent aujourd'hui de cette perspective, en particulier lorsqu'ils appellent de leur vœu l'émergence de configurations sociales qui favorisent ce qu'ils appellent les individuations personnelles ou collectives. C'est une façon de dire que individuation ne désigne pas la conquête d'une personne autonome qui serait attachée à la singularité de sa forme, mais peut aussi bien désigner la conquête d'une singularité collective. On voit là appeler de ses voeux l'émergence de configurations sociales qui favorisent les individuations collectives et les individuations personnelles, qui protègent les manières souples de faire fluer sa vie. Un individu n'est pas forcément une personne, ce peut être un groupe, une culture, et l'important ici est de protéger des singularités, de favoriser les singularisations, que ce soit celles des personnes ou des communautés. Alors, où résident concrètement ces chances d'individuation rythmique que cherche Barthes, ces va-et-vient autour des seuils du moi? En fait, et je l'ai déjà un petit peu suggéré, dans toutes les prises de forme de la vie quotidienne, la scansion du travail et du repos, l'organisation des décors et des lieux, le rapport aux autres, et peut-être avant tout, et c'est un mot qui revient sans cesse chez celui qu'on appelle le dernier Barthes, dans les gestes. Les gestes sont les premières de nos façons de plier à l'extérieur de nous-mêmes. Ce sont des réserves de forme, des réserves de rythme, et en tout cela, des réserves d'humanité. C'est avec les gestes, avec ces usages de nous-mêmes qui sont d'emblée des sorties hors de nous, que s'ouvre le domaine de l'éthique, l'éthos, hein, la façon de se mouvoir, la conduite. Aller, tendre vers, mais aussi se retirer, mais aussi frôler, autant de gestes, autant de décisions relationnelles. À vrai dire, les poètes, et en fait j'inclus Barthes parmi les poètes, il est commode parce qu'il est philosophe et poète, les poètes ont mieux que quiconque cette compréhension rythmique du vivre. Ils savent que les hommes mettent leur rythme dans le monde, puisqu'ils y mettent le leur. Ils savent que c'est là une dimension essentielle du métier de vivre, mais surtout ils ont le rythme en charge, en responsabilité, en écrivant de la poésie. Et dans cette mesure où le rythme n'est pas seulement pour eux un savoir, mais une pratique, ils disent à vrai dire quelque chose de plus que ces théoriciens ou ces anthropologues du rythme, quelque chose sur quoi je voudrais insister aussi parce que c'est pas très agréable à entendre, c'est que le rythme est une tâche et une tâche difficile. C'est le terrain d'une polémique, d'une controverse, d'un débat avec soi-même et avec autrui. Michaud déclarait très clairement, en ouverture d'un très beau poème dans le recueil Passage, « Le mal, c'est le rythme des autres. » Le mal, c'est le rythme des autres. Barthes ouvrait son cours, on l'a vu, sur une histoire de discordance. Il donnait des exemples de ses propres souffrances rythmiques dans la conduite de ses relations. Et Nietzsche posait dans le Gai Savoir que, je cite, « Le rythme est une contrainte. Il engendre un irrésistible désir de céder, de se mettre à l'unisson, non seulement les pas que l'on fait avec les pieds, mais encore ceux de l'âme, suivant la mesure. » Donc on a l'impression, dans ces reculs, de voir des hommes en retrait par rapport à ce pli au dehors qui seul pourra faire la communauté. Le mal, donc, dit Michaud, c'est le rythme des autres, un rythme dont il semble qu'il faudrait se protéger coûte que coûte. Alors je pense qu'on peut comprendre très facilement quelque chose de ça. On a tous éprouvé dans l'emploi de nos journées, dans le formatage de nos vies sociales et plus cruellement encore au sein des relations affectives, parce que la société n'a pas le monopole de cette souffrance des rencontres et des contacts, plus encore au sein des relations d'amour ou d'amitié, comme Barthes l'a bien compris. Nous avons tous éprouvé combien il est parfois difficile de faire avec le rythme des autres, avec rythme pris dans ce sens évidemment très large, il y en a qui s'y reconnaissent, dans ce sens très large, avec le rapport de quelqu'un d'autre à la durée, avec le rapport de quelqu'un d'autre à l'avenir, à l'habitude, à la surprise, à l'attente, à l'improvisation. Un poète aussi soucieux des formes de vie que Michaud a toujours fait droit dans sa poésie à nos colères rythmiques. Le mal, posait-il donc ironiquement, c'est le rythme des autres. Michaud a toujours été attentif à ces discordances et aux désorientations qui transforment notre corps en ce qu'il appelait une machine à appréhender les différences. J'aime beaucoup cette définition de nous-mêmes. Nous sommes des machines à appréhender les différences, à les aimer ou à nous en protéger. Et il voyait partout l'occasion et la menace de ces discordances, jusque dans le souvenir d'un drôle de malaise qu'il raconte avoir éprouvé lors d'un voyage un peu raté en Équateur. Oui, il fait semblant, mais c'est parce qu'il a ça à dire. À l'Équateur, dit Michaud, donc dans un recueil postérieur à Équateur, toujours le recueil Passage, à l'Équateur, je ne me suis jamais senti moi-même. Une ivresse endormie me tenait. Je me demande si le mouvement de rotation de la Terre, deux fois plus rapide là-bas que dans nos climats, n'en serait pas la cause. Ces 465 mètres par seconde dans ces pays ne devaient pas manquer d'agir sur moi qui suis fort sensible au tournoiement. Et Michaud figurait ainsi le mouvement de la vie individuelle comme une défense, comme une préservation contre les déphasages. Chacun cherche, dit-il, sans que personne le lui ait indiqué, à maintenir son tempo, à travers tout, à travers événements, émotions, aventures, comme il lui faut à travers saisons froides, lieux torrides, maintenir égale sa température. Je continue la citation. Par une balance très savante et constante, entre les entraînements qu'on accepte et les entraînements auxquels on tourne le dos, par un équilibre complexe où les petits ralentissements et les petites accélérations se trouvent ingénieusement compensés, chacun cherche à maintenir son tempo. Michaud savait avec quelle force s'insinue au cœur des individus des puissances contraignantes et des rythmes forcés, ce que Bachelard, qui avait lui aussi beaucoup réfléchi au rythme comme à une clé des mouvements de la vie, ce que Bachelard appelait les fausses permanences ou les identités mal faites. Mais Michaud savait aussi que la vie exige ces déphasages. Ce n'est pas seulement que le fait d'être vivant, et donc d'être avec, ce n'est pas seulement que le fait d'être vivant tolère ces discordances ou les supporte, c'est aussi qu'il les nécessite. L'individuation d'une forme, d'un être, requiert une composition avec des formes autres, avec d'autres vivants. Le réglage d'une pulsation de vie ne repose pas sur une clôture, mais sur une accommodation infinie, un débat avec des forces de déphasage qui sont aussi des réserves de création. Chacun donc est tiraillé entre plusieurs rythmes, désorienté par le dehors ou par la multiplicité de ses pistes intérieures. Et la vie est la réponse incessante que l'on apporte à ces discordances. C'est une structuration du vivant malgré ces discordances, mais surtout avec elles. Quelque chose comme l'invention d'une danse qui a besoin d'appui, qui a besoin de lutter. À la fois, donc, comme le dit Michaud, les entraînements qu'on accepte et les entraînements auxquels on tourne le dos. Michaud s'est en fait toujours confié au pouvoir du déséquilibre. Il faisait du déséquilibre la condition de toute expérience, non pas son obstacle, mais sa condition, je le répète, et il l'imposait violemment à ses lecteurs, exigeant qu'eux-mêmes en fassent aussi l'épreuve. Non, pas question de paix, disait-il, pas question de paix, nous sommes inépuisables en expérience. Pas question de paix, c'est bien ce que porte la notion de rythme, la fatalité d'un être ouvert, la chance et la charge d'un être qui ne vit que de ses déphasages. L'individu, dans cette perspective, n'est pas exactement un rythme, mais là, le poète ajoute quelque chose, il me semble, au théoricien, c'est plutôt la mise à l'épreuve permanente d'un rythme d'être dans un débat nécessaire, avec d'autres rythmes. L'allure de l'individu est la réplique sans paix qu'il apporte aux entraînements, aux coups et aux appuis, aux menaces et aux secours qui lui viennent du dehors ou du dedans. Et c'est par ce débat, par cette contrariété, que la vie est rythmique et jamais eurythmique. Ici, Michaud, en fait, accepte mieux que Barthes la colère du vivre avec. Il protège moins son désir. Dans la poésie de Michaud, les rencontres apparaissent comme autant de circonstances de combat qui obligent à ce que Michaud appelle une utilisation énergétique de l'ennemi, de la situation irritante, du milieu hostile, du mal. Si le mal est le rythme des autres, c'est bien avec ce rythme des autres qu'il faut apprendre à swinguer, à lutter, à danser. Et toute sa poésie révèle ce polémos, cette guerre accoucheuse, cette contrariété qui rythme la vie et qui seule fait émerger des liens. Donc le rythme qui fonde notre être ici n'est pas un état, c'est un débat. L'idée de communauté qui en résulte est forte et dérangeante, hein, telle qu'elle apparaît dans Un barbare en Asie ou dans Équateur, ces textes colériques. L'idée de communauté qui en résulte est forte, elle n'est pas faite d'appartenance, elle naît du forçage permanent de ce seuil dont je parlais dès le début, le seuil qui sépare le dedans de l'individu de son dehors. Pourquoi je joue du tam-tam maintenant, demande Michaud, au deuxième vers de cette poésie qui a commencé, enfin à vrai dire en exergue, par cette formule, le mal c'est le rythme des autres. Pourquoi je joue du tam-tam maintenant? Pour forcer vos barrages, forcer des sorties donc. L'horizon d'un vivre ensemble repose peut-être en effet sur la façon dont chaque individu peut ou ne peut pas, sait ou en vérité ne sait pas, plier au dehors de lui-même, comme si l'être ensemble n'était pas tant un problème de groupement, de constitution d'une unité ou d'une identité commune, que d'obligation à trouver en chacun une vraie ligne de déploiement, de déprotection, comme le dit Barthes. Cette idée-là est une idée de poète, parce que les poètes ont le savoir de ces seuils qui séparent le dedans du dehors, et ils ont surtout l'appétit de leur franchissement. La forme poétique est définie par la possibilité de l'enjambement qui force des barrages, effectivement. Alors je ne sais pas si Jean-Claude Milner serait d'accord avec cette sorte de translation anthropologique que je donne de sa réflexion sur le vers, où le vers est défini par la possibilité de l'enjambement. Mais c'est à lui que j'emprunte cette insistance sur le sens du seuil. Les poètes ont le sens du seuil qu'il faut passer, qu'il faut savoir passer, mais qu'il faut savoir voir aussi. Le vers comme possibilité de franchissement d'un seuil, la vie aussi, comme recours du franchissement d'un seuil. Michaud, on vient de le voir, faisait de la porosité des cloisons du moi l'un des fils rouges de sa pensée, et c'est Baudelaire avant lui qui a été à la fois le gardien et le pulvérisateur du seuil qui marque cette séparation de l'être singulier et de la foule. C'est des textes que vous connaissez très bien. Gardien de ce seuil parce que Baudelaire a souffert de l'obscurcissement de la frontière qui distingue l'individu de la foule, mais aussi pulvérisateur de ce seuil, parce qu'il a joui de cet obscurcissement et il a défini l'attitude de modernité, ce qu'il appelait l'attitude de modernité, comme un appétit d'altérité, un besoin furieux d'altérité, le besoin de ce qu'il appelle un moi avide de non-moi, un moi avide de non-moi, donc qui ne reconnaît pas seulement la différence, mais qui la veut, qui en a faim. De la vaporisation et de la centralisation du moi, tout est là, résumait Baudelaire dans une note très célèbre de ses carnets intimes, de la vaporisation et de la centralisation du moi. Respiration très semblable à celle que j'essayais de déceler chez Barthes, chez Mauss ou chez Leroy Gourin. Être un individu parmi les autres, à vrai dire pas tout à fait avec les autres, mais parmi les autres, pour Baudelaire, cela reposait sur cette respiration constante entre une expansion et une concentration, une capacité à se défaire dans la perception ou dans l'amour, et une capacité à se rassembler soi-même, à refermer en quelque sorte le cercle de son âme, l'âme étant comme un parfum qui doit à la fois se répandre avec l'expansion des choses aux infinis, hein, et qui doit aussi trouver son cadre, son flacon, ses contours, sa concentration. Baudelaire a figuré les enjeux de ces franchissements dans tous les domaines, en posant la question esthétique du cadre, hein, ça l'obsède dans les textes sur la peinture ou sur la poésie, le tracé d'un cadre et d'un contour, en posant donc la question esthétique du cadre, en posant la question morale du contact, et en posant la question politique du côtoiement. C'est Claude Lefort qui faisait intervenir cette notion de côtoiement dans sa définition de la démocratie. Le côtoiement. Baudelaire a d'ailleurs fait à la fin de sa vie l'expérience d'une véritable crise de rythme et crise de contour pour le coup. Il avait fondé une grande partie de sa pensée sur une espérance d'eurythmie. Il y a des très beaux textes sur le désir d'eurythmie, d'harmonie rythmique dans les proses de Baudelaire. J'en cite simplement un. Toujours dans les carnets intimes, l'harmonie, le balancement des lignes, l'eurythmie dans tous les mouvements apparaissent aux rêveurs comme des nécessités, comme des devoirs. Mais en 1864, au moment où il était déjà très affaibli, Baudelaire a été amené par les hasards du destin à séjourner longuement à Bruxelles, où il a donné des conférences, enfin tout en étant très, très en colère de la vie qu'il menait. Et il a donc dû essayer d'habiter une configuration sociale assez différente de celle dont il était familier. Il s'est confronté à de tout autres dispositifs sociaux, à de tout autres manières d'être un peuple, et pour la Belgique de ce temps-là, les manières d'une jeune nation. Il n'a pas su habiter ces autres rythmes collectifs, mais alors pas du tout. Il n'a pas su habiter ces autres rapports à la vie publique, il n'a pas su intégrer ces autres modes de côtoiement. Vous connaissez peut-être les textes qui rapportent les notes de cette expérience belge de Baudelaire, enfin qui sont terribles et drôles, furieux, et qui révèlent avant tout la force d'une discordance, d'une dysrythmie éprouvée très intensément. Toutes les coordonnées du rêve eurythmique de Baudelaire manquent à Bruxelles. Et il en fait d'ailleurs le portrait, il fait d'ailleurs le portrait de Bruxelles comme un espace informe, sans contour, sans ponctuation, sans rythme. Alors il y a toute une série de traits qui font défaut pour lui à Bruxelles par rapport, pas seulement à la vie parisienne, mais à ce désir de rythmie très spatiaux, très sociaux, très comportementaux, qui courent tous autour de cette recherche d'un accord rythmique avec l'espace. La marche ondulante de la passante fait défaut pour Baudelaire à Bruxelles. D'ailleurs, dit-il, ici la femme n'existe pas. Et puis la ville est sans fleuve, enfin la ville n'est pas sans fleuve, il y a une rivière qui coule qui s'appelle la Seine, S-E-2-N-E, qui lui apparaît comme une sorte de caricature de la Seine, même si à vrai dire Paris n'est pas du tout épargné hein, dans ce texte sur Bruxelles. Le match n'est pas entre Bruxelles et Paris, il est entre la modernité démocratique et la difficulté de Baudelaire. La ville est sans fleuve, par conséquent elle n'est pas scandée, elle n'est pas rythmée, elle ressemble à une mer sans mât ou à un temple sans colonnes, et puis sans fleuve, impossible de flâner. Je cite, « La flânerie, si chère au peuple doué d'imagination, impossible à Bruxelles. Rien à voir, les chemins sont impossibles. » Le flâneur, dans les textes sur Paris, apparaît à lui seul comme la ponctuation de la ville, mais ici, pas de ponctuation, pas d'animation formelle. Alors il y a des tas de descriptions sur la façon dont Baudelaire se cogne sur les trottoirs. Les Belges apparaissent à Bruxelles, je le cite, « incertains comme des êtres inanimés, on se cogne, on se heurte. » La démarche est folle et lourde. Sans cadence, ils marchent en regardant derrière eux et se cognent sans cesse. Donc délire de Baudelaire, mais marque d'une impossibilité totale à habiter cette configuration sociale-là. Les formes du côtoiement sur le pavé bruxellois caricaturent pour Baudelaire les conditions de la vie démocratique. Et puis s'il n'y a pas de ponctuation à la ville, en fait, c'est qu'il n'y a pas de contour aux formes individuelles. C'est ça son vrai, sa vraie souffrance. Le seuil séparant l'individu de la foule, décidément, il semble plus fragile qu'ailleurs. C'est un seuil que Baudelaire veut forcer, mais qu'il veut justement forcer. Il faut qu'il y ait quelque chose à forcer. Il enrage. Et notamment, il y a toute une série de remarques sur la... sur les bandes, les complots, il a l'impression que c'est une ville de regroupement secret qui menace les individus. Abdication de l'individu, dit-il. Danger de s'associer à n'importe quelle bande. Crise de rythme, donc, à l'issue de laquelle Baudelaire doute de l'habitabilité de toute société moderne, mais doute, à vrai dire aussi, et ça c'est plus intéressant, de sa propre capacité à soutenir les formes de la ville moderne, de la ville qui n'est pas selon son goût. Je le cite, c'est un des fragments qui a été mis en tête d'une des premières éditions de ces notes éditées de façon posthume. « Dirons-nous, dit Baudelaire, dirons-nous que le monde est devenu pour moi inhabitable ?» Donc c'est pas seulement un texte de rage, hein, c'est aussi un texte d'interrogation sincère sur sa capacité à soutenir cette expérience. On peut traiter de haut cette résistance de Baudelaire aux formes d'un autre quotidien. Et Pauvre Belgique est un texte facile à moquer, de même qu'il est facile d'écarter d'un revers de la main les protestations de Michaud. Non, le mal, ce n'est pas le rythme des autres. Regardez le jazz, regardez la musique. Mais on peut aussi souligner que ces mouvements manifestent avec vérité la sensibilité particulière des poètes aux formes de la vie, aux formes que prend toute vie, au fait qu'une vie soit inséparable de ses formes, et qu'il y ait une force, une idée de vie dans toute prise de forme, par exemple dans les rythmes dont un individu ou une société se montre capable. Si les poètes disent que le rythme est une épreuve, et pas seulement une catégorie, c'est peut-être parce qu'ils ont cette responsabilité, cette charge des formes. Or, vouloir voir les formes, comme le fait Michaud, comme le fait Baudelaire, c'est vouloir voir des différences, coûte que coûte, et savoir qu'elles sont agissantes, qu'elles ne sont pas neutralisables, qu'elles blessent. Michaud, Baudelaire ont le talent de pouvoir être blessés par des formes, d'y voir des différences effectives. Ils savent qu'aucune différence n'est indifférente, ils n'en négligent aucune, ils ne s'accordent, à vrai dire, facilement avec aucune différence. Ils savent donc que l'altérité ne laisse pas indemne, ils déniaisent, autrement dit, la relation d'altérité. Je conclus bientôt en rappelant que quelqu'un qui était, enfin un philosophe italien actuel qui était cité dans le programme inaugural de ce banquet, Roberto Esposito, dans ses méditations sur ce que doit être une communauté, a proposé de belles réflexions sur ce qu'il appelle l'excès d'immunité qui fonde nos imaginaires sociaux. Nous devons nous défendre, on nous dit de nous défendre. Nous subissons, pose-t-il, les effets de protection redoutables. Et Esposito combat ainsi l'imaginaire et la réalité de l'individu, d'un individu bardé de protection contre les intrusions et les atteintes des autres. Et il considère que cet individu, c'est vraiment l'individu né avec la modernité, né avec la peur d'être frôlé, dont parlait Canetti dans Masse et pouvoir, la peur d'être frôlé. Et la communauté, conclut Esposito, au contraire, ne peut lier que des extroversions, des êtres tournés vers leur extérieur, vers leur part de généralité, non de propriété, mais d'impropriété. Sans doute Esposito lirait-il avec effroi les notes belges de Baudelaire, et il aurait raison. Pourtant Baudelaire, Michaud, mais aussi Naples, mais aussi aujourd'hui Pachet, disent quelque chose de juste lorsqu'ils accentuent la guerre interne ou la contrariété du vivre. Et c'est peut-être là la seule vraie façon de rendre véritablement justice à la différence, parce qu'ils disent que la différence est difficile à pratiquer, difficile à prendre sincèrement en charge, non pas seulement en la tolérant ou en lui tournant le dos. En fait, ils l'aggravent, comme fait tout écrivain attentif. Ils refusent d'apaiser la relation à l'altérité, de rendre la relation à la différence paisible, c'est-à-dire aussi inerte. Non, pas de paix, nous sommes inépuisables en expérience. Vous vous souvenez peut-être de la phrase de Michaud. Sans cette certitude que la différence est une puissance colérique, la multitude ne sera qu'un slogan. Les différences resteront indifférentes. Sans cette certitude que l'altérité affecte, requiert, la proclamation de la pluralité ne sera que le luxe ou la tolérance que s'autorise, je crois, la pensée libérale. Tous ces poètes que moi je m'étais amusée à les appeler des poètes méchants dans un cours, les poètes méchants, Baudelaire, Rilke, Michaud, ceux qui ne sont pas contents des conditions faites à l'expérience, tous les poètes méchants maintiennent vive cette puissance du différent. Et chez Michaud, c'est un tout petit mot qui résume cette guerre rythmique des allures de la vie, et ce petit mot, c'est la frappe. La frappe, d'une part, c'est la ponctuation du sujet, l'accent inégalable du moi, l'air du sujet. Je cite toujours passage, « Il me devient pressant de conduire à mon tour quelque petit équipage à travers l'infini moutonnement des possibles, petit cortège que le mien, mais qui, sur ce fond vaste et infiniment glissant, marche pour moi d'un pas si étrangement accentué, d'un pas qui frappe le silence d'un accent inégalable. » Petit cortège que le mien, mais qui frappe le silence d'un accent inégalable. Mais la frappe, c'est aussi le coup donné ou le coup reçu, ce contre quoi il faut maintenir sa forme, ce sur quoi il faut s'appuyer pour transformer sa forme. Et tout comme l'homme sensible de Baudelaire, sensible, c'est-à-dire à la fois attentif et nerveux, ouvrant et défendant tour à tour les frontières du moi, n'accuser la sensibilité de personne, la sensibilité de chacun, c'est son génie, disait Baudelaire. Donc, tout comme l'homme sensible de Baudelaire, l'homme rythmique de Michaud est un être fondamentalement exposé et réactif, polémique, dynamique, vivant, engagé dans un grand combat, ce que Michaud appelle le grand combat, répondant aux coups de l'intérieur et aux coups de l'extérieur. La colère de Michaud et même la fureur de Baudelaire, autant de mouvements réels vers une déprotection, selon ce mot assez exigeant que Barthes a forgé pour définir la possibilité de la vie sociale, ce mot décevant aussi. Être ensemble, c'est se déprotéger. Ce sont les leçons de sujets vraiment attentifs à la contrariété du vivre qui n'apaisent pas les discordances, mais au contraire les endossent, en répondent. C'est à cette conscience que les portent leur sentiment d'une rythmicité de la vie, parce que le concept de rythme ne peut pas être un concept irénique. Il implique une force dressée vers d'autres forces. Un infini débat avec autrui et avec soi-même, Barthes l'a pressenti et peut-être même l'a-t-il craint. Alors je conclus en revenant, ça n'est pas tout à fait hors sujet, mais sur deux lectures, à vrai dire, que j'avais simplement envie de partager. Je sais que les livres sont là à la librairie, puisque j'y ai retrouvé l'image de ce pli au dehors ou de cette déprotection dont l'individu est capable dans des textes l'important sur la cure individuelle, l'autre sur le polythéisme, où je ne m'attendais pas à trouver des réflexions sur le rythme, sur le geste et surtout sur la communauté et le vivre ensemble. Dans l'ouvrage de François Roustan, consacré à la guérison psychique, il suffit d'un geste, où Roustan repense le processus de la thérapie, vous le savez, autour de la culture de l'hypnose, et le loge tout entier dans la façon dont un corps parvient à se réinsérer, comme l'aurait dit en fait Barthes ou Leroy Gourhan, dans l'ensemble des relations qui font son milieu effectif de vie. Et j'ai été frappée par le fait que Roustan souligne que la chance d'une communauté naît, comme chez Barthes, du réglage d'une solitude. C'est bien dans la solitude que l'on se dispose autrement, que l'on s'assoit autrement, dit-il, et que l'on peut s'embrancher au monde, et donc y participer. Les hommes, disent-ils, se regroupent à partir des embranchements de monde, les individus étant ces embranchements de monde. Je le cite, « Le soubassement du lien social n'est donc pas à chercher en un ajout qui lierait les humains entre eux. Il y a société humaine parce que chaque humain est susceptible de créer une aire de circulation, un lieu qui conditionne le rythme de tout. En conséquence, une conséquence qui est toujours au début, chaque autre profite de cette situation, profite de la circulation généralisée pour brancher son monde à lui, qui est lui-même entré en mouvement. » Et puis j'ai trouvé aussi l'écho de cette déprotection dans l'essai récent, très beau et très original, d'une philosophe du monde grec, Frédéric Ildefonse, intitulé « Il y a des dieux », un magnifique texte, L'auteur y propose un très troublant voyage en terre polythéiste, à Salvador de Bahia, et elle réfléchit à ce qu'implique, quant à la constitution des sujets et quant aux promesses de collectivité, ce sentiment que le monde est habité par autre chose que des individus. Elle raconte comment, accueillie dans les rites polythéistes, qui existent en fait, enfin qui ne sont pas des archaïsmes, qui sont la réalité bien réelle et actuelle dans beaucoup d'endroits du monde, elle raconte comment, accueillie dans ses rites, dans ses gestes, dans ses rythmes donc, elle a vécu comme un retournement intérieur et s'est sentie pour la première fois rassemblée. Elle s'intéresse pour cela à la rythmicité des rites, au rythme que créent les ferveurs et les cérémonies, au rythme qu'inventent les vies ritualisées, dans les gestes par lesquels elle s'excède, s'exproprie et décidément plie au dehors. Elle montre d'ailleurs comment notre propre pauvreté en rite et en fête, donc vive le banquet, nous visse ordinairement au travail comme à notre seul rituel et nous livre à la consommation comme à notre seule fête. Elle accepte, un peu comme les poètes méchants dont je parlais tout à l'heure, elle accepte de juger les formes de vie. Elle juge la faiblesse rythmique de nos dispositifs sociaux, des dispositifs qui nous sont imposés, que nous nous imposons, et elle en appelle à une autre ponctuation, à une autre scansion de temps fort et de temps faible, à d'autres rassemblements. Elle a raison, il nous faut autre chose, il nous faut d'autres formes, il nous faut d'autres gestes. Alors au terme de ce petit parcours, le vivre ensemble apparaît comme marqué par cette question de montage rythmique où ce sont des solitudes qui s'accordent et se désaccordent. La communauté n'est décidément pas ici une question d'appartenance ou d'adhésion, l'appartenance de chacun au groupe constitué, mais de relation, la relation de l'un à l'autre, de chacun à chaque autre, dans ce ploiement du singulier vers ce qui n'est pas lui. La communauté n'est pas non plus ici une question d'identité ou de propriété. L'identité du groupe, la propriété commune, en l'occurrence ce qui serait un rythme commun qui blesserait profondément Barthes ou Michaud, mais c'est une affaire d'altérité, l'altérité réelle, distante, exigeante, vers quoi plie la pliure, vers quoi va la relation. Alors il me semble qu'aujourd'hui, beaucoup de philosophies du politique se dirigent vers de telles pensées, mais, je ne sais pas si vous serez d'accord, souvent la philosophie me semble en défaut par rapport à l'exigence de la différence qu'elle proclame, mais qu'elle ne prend pas en responsabilité. Et je crois que la littérature n'est pas en défaut par rapport à cela, par rapport à la duplicité de joie et de douleur qu'engendre la différence vraiment prise en charge. Chez tous les poètes méchants dont j'ai associé ici les pensées, le rythme, c'est-à-dire l'altérité, ne relève pas d'un savoir mais d'une pratique, ou plutôt d'une tâche, dont ils disent sans honte la complexité. C'est le nom d'une altérité à laquelle on doit réellement faire place en soi-même. Voilà. Merci.